On a le privilège de lui parler de temps à autre. C'est un ex-officier du renseignement militaire d'Israël, Raphaël Jérusalemi, qui est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment ça va?
Ça va, et vous-même?
Merci, merci d'être avec nous. Ça va très bien. Je suis en train de lire les résumés d'interventions que vous avez fait au cours des dernières semaines, entre autres sur i24 News, qui est une chaîne israélienne, sur Radio J également, qui est une station d'Israël et tout. Ça semble précurseur de ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, le 7 janvier, vous aviez dit c'est le moment pour Israël de frapper en Iran. Le régime est affaibli. Le 25 janvier, vous avez dit il faut frapper vite et fort. Vous étiez bien branché, je pense.
Oui, mais j'avais un petit peu de chance. Mais je pense que c'est un ressenti à force de suivre les événements. Vous savez, c'est une sorte d'expertise. Moi, je compare toujours ça à la concierge du quartier. La concierge de votre quartier, elle sait exactement ce qui se passe dans le quartier, qui va au travail, qui est en retard. Voilà. Et donc, vous avez un ressenti dès que quelque chose change dans l'atmosphère du quartier, vous le ressentez. Voilà. Et donc, j'ai eu ce ressenti-là.
Oui,
il y avait des signes précurseurs. Des signes précurseurs.
Il y avait beaucoup de concierges du Mossad, je pense. Si je peux intervenir, est-ce que le Mossad avait beaucoup de concierges à Téhéran au cours des derniers mois?
Alors, non seulement il en a pas mal, mais ce sont en majorité des Iraniens. C'est-à-dire, il y a bien sûr quelques agents israéliens du Mossad, d'ailleurs qui sont eux-mêmes très très souvent d'origine iranienne. Nous avons en Israël 150 000 juifs iraniens qui ont pour la langue maternelle le persan. Ils sont à peu près 250 000, mais sur les 250 000, il y a 150 000 dont véritablement la langue maternelle est le perse. Donc il y a de quoi recruter. D'ailleurs, dans la diaspora iranienne dans le monde, il y a 4 millions d'Iraniens qui vivent à travers le monde où on peut recruter des agents. Mais en vérité, en Iran, la différence, c'est qu'il y a, par rapport à, par exemple, si vous voulez espionner dans certains pays arabes, en Iran, il y a une immense majorité de la population qui est prête à aider le Mossad, qui est en fait favorable à un renversement du régime et qui passera un accord très facilement avec une force étrangère qui lui promet ce renversement du régime.
Êtes-vous en mesure de nous décrire les grandes lignes de ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, le travail du Mossad qui a mené par la suite au largage des bombes lourdes sur le palais ou la résidence de l'Ayatollah. Mais allons-y avec le travail du Mossad. Quel genre de travail a été mené pour qu'on accouche de cette opération-là?
Alors, il faut remonter loin en arrière, en amont. C'est des années et des années de travail qui débutent d'ailleurs fin des années 80, lors de la guerre Iran-Irak. À ce moment-là, les Israéliens fournissent, figurez-vous, des armes aux Iraniens dans leur guerre contre l'Irak. Et c'est lorsqu'ils fournissent ces armes qu'ils commencent à développer des contacts assez étroits avec les services sécuritaires des Iraniens et qui commencent à avoir un pied, si vous voulez, en Iran. Depuis, évidemment, ils ont cultivé beaucoup de rapports avec l'opposition iranienne et au fur et à mesure des années, il faut absolument observer les cibles. Alors, si on prend la cible principale, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Cela fait donc des années que le Mossad, avec la complicité locale, surveille les moindres déplacements, les réflexes, les façons d'opérer des gardes du corps, de la sécurité, de l'entourage du guide suprême. On a même créé des fausses alertes pour voir comment, lorsqu'il y avait une sorte d'alerte, comment réagissaient les gardes du corps, comment réagissait l'entourage immédiat de l'ayatollah pour le protéger, dans des scénarios un peu différents. Et on a aussi réussi à infiltrer, en fin de compte, son entourage, car cette élimination, elle a été rendue possible grâce à un visuel humain sur le terrain qui nous a indiqué que oui, la cible était bien là, on voulait qu'elle soit, donc atteignable par un bombardement, car elle aurait pu être dans un autre endroit, par exemple dans un bunker comme il en a. Khamenei avait des bunkers dans les montagnes à 100 mètres sous terre. Alors là, ça aurait été plus compliqué, mais là, il était resté dans son palais. Et en plus, il n'était pas au dernier sous-sol, il était à peu près à mi-profondeur, ce qui permettait un bombardement. Tout cela, donc, c'est des années de surveillance, d'observation, de savoir comment ils vont réagir. En plus, on a réussi à créer une atmosphère de paranoïa. L'ayatollah Khamenei ne faisait plus confiance pratiquement en personne, et donc il avait de moins en moins de protection, parce qu'il n'avait pas confiance même en ses gardes du corps. Et tout ça ensemble a permis l'opération avec le moment en or, ce qu'on appelle le moment en or, c'est-à-dire le moment où les agents sur le terrain disent « ça y est, c'est le meilleur moment, la météo est bonne, la cible se trouve là où on veut, elle est atteignable, il faut avoir tous ces renseignements-là pour que le feu vert soit donné ».
Est-ce que c'est vrai qu'on a accéléré l'opération? Le moment en or, on l'avait. C'était pas nécessairement planifié à cette date-là. Mais étant donné qu'il y avait une convergence d'événements, il y avait une convergence de rencontres en haut lieu avec des officiers de l'armée, etc., les hauts sphères du pouvoir, est-ce que c'est vrai qu'on a accéléré la machine?
Absolument, on a accéléré. Ça a d'ailleurs été aussi la décision de lancement de la grande offensive israélo-américaine sur l'Iran. Ce qui est très intéressant, c'est que cette réunion à haut niveau et d'urgence a été provoquée. À plusieurs reprises, les Israéliens, lorsqu'ils ont voulu éliminer certains hauts dirigeants du Hamas, du Hezbollah, des factions terroristes palestiniennes ou autres, ont provoqué eux-mêmes une sorte de crise de fake news qui oblige à une réunion d'urgence. Et là, on a créé donc les conditions d'une réunion d'urgence, ce qui a l'avantage évidemment de mettre la cible là où on la veut, parce que elle est obligée d'agir vite et de tenir ses réunions. Et la salle de réunion de l'ayatollah se trouve justement dans un sous-sol pas trop profond. Et l'avantage, c'est que vous avez en plus tous ceux qui viennent à la réunion qui sont éliminés du même coup.
C'est quoi la fake news qui a été inventée? On a fabriqué une information pour créer un sentiment d'urgence. Quelle est cette information?
Alors, je n'ai pas les détails de cette fois-ci, mais le modus operandi, c'est effectivement du fait qu'on a de toute façon des écoutes sur les moyens de communication et des infiltrés dans l'entourage. On peut donc faire parvenir une sorte de problème, si vous voulez, d'alerte qui nécessite une décision qui doit être prise rapidement. Dans ce cas précis, ça peut être même le fait que les Américains vont attaquer maintenant, à cette heure-ci, cet endroit-ci, quelque chose qui surprend et qui nécessite une prise de décision rapide. On n'a pas le temps de réfléchir, pas le temps de s'organiser, il faut absolument se concerter. Et à ce moment-là, les gens se réunissent, ils n'ont pas le temps de réfléchir à un endroit discret, secret, voilà. Et si on arrive à créer cette situation... Donc, la cible se trouve là où on voulait qu'elle se trouve, entourée en plus d'autres cibles, et on a la complicité locale qui nous dit « les gars, ça a marché, ils sont vraiment là ».
À la lumière de ce qu'on sait, et à la lumière des dommages collatéraux, parce qu'il y en a, entre autres Dubaï, évidemment, et là, tu as eu le Hezbollah qui a décidé de s'en mêler avec la réplique massive israélienne. Comment pouvez-vous évaluer la qualité de l'intervention jusqu'à maintenant? Est-ce que c'était prévisible, ça, qu'il y ait des dommages collatéraux comme ça? Est-ce que c'était dans votre plan de match, dans votre cahier? Comment vous pouvez évaluer ce qui se passe actuellement?
Toutes sortes de scénarios avaient été prévus, mais pas l'erreur fatale que commet en ce moment le régime iranien. C'est-à-dire, le régime iranien avait menacé, en fait, de déstabiliser le Proche-Orient. Et les missiles qu'il est en train de jeter sur les pays arabes, même certains pays arabes qui sont plutôt amis avec eux, hein, comme le Qatar ou le Koweït ou Oman, sont pas du tout des ennemis des Iraniens. Or, comment se fait-il qu'ils reçoivent aussi des missiles? Eh bien, c'était dans l'espoir de déstabiliser le Proche-Orient et que ces pays arabes fassent pression sur Donald Trump en lui disant « arrêtez les frais, stoppez, please, le pétrole, etc. » Et ça a eu exactement l'effet contraire, c'est-à-dire que les pays arabes se sont unis maintenant contre l'Iran. Et en plus, hier, c'est quelque chose de science-fiction incroyable, le chef de l'état-major de Tsahal, le général Zamir, donc israélien, a appelé au téléphone ses collègues des Émirats d'Arabie Saoudite et s'est concerté avec les chefs d'état-major de pays arabes. C'est le monde à l'envers. En tous les cas, c'est surtout l'envers de ce qu'avaient pensé les Iraniens et l'ayatollah Khamenei.
Tous ensemble pour éliminer les indésirables. Tous ensemble pour éliminer les indésirables. C'est incroyable, ça.
Ouais. Et la deuxième erreur, c'est quand même les proxys. Parce que c'est vrai que le Hezbollah rentre dans la danse, mais à retard et pas d'une façon tellement spectaculaire. Il va d'ailleurs le regretter amèrement, je pense. Mais par exemple, les Houthis du Yémen, qui sont aussi des proxys des Iraniens, eux ne sont toujours pas rentrés vraiment dans la danse. C'est à chaque fois, en fait, les Iraniens se voient trahis par les factions terroristes qu'ils ont financées pendant des années et qui, en fin de compte, font pas le boulot.
De quoi doit-on s'inquiéter, en terminant, de quoi doit-on s'inquiéter le plus, selon vous?
Alors, on doit d'abord s'inquiéter d'un échec, parce que le but, quand même, c'est de libérer le peuple iranien de la tyrannie, et donc il faut absolument arriver à faire tomber ce régime, et ça c'est pas encore dans la poche. On compte d'ailleurs sur le peuple iranien pour se soulever et donner le coup de grâce au régime, donc il faut craindre, parce que si le régime n'est pas éliminé cette fois-ci, il va être renforcé, et la dictature sera terrible, et la répression sera terrible, donc ça c'est mauvais pour le peuple iranien. Sur le plan sécuritaire, il faut redouter des armes que les Iraniens n'ont pas encore utilisées. Alors ça peut être, et ça a commencé, d'ailleurs on a reçu aujourd'hui la première, des missiles à tête multiple, c'est-à-dire des missiles dont la tête se divise en 20 têtes explosives, et il faut à ce moment-là intercepter 20 cibles à la fois et non plus un seul missile.
Donc, est-ce qu'Israël est équipé pour contrer ça?
Oui, les Israéliens sont entraînés. L'armée de l'air, ça, il s'agit ici de, en fait, des avions plus que des batteries antiaériennes, sont entraînés à chasser, si vous voulez, les différentes têtes d'un missile à tête multiple. Mais enfin, c'est pas donné, c'est pas facile. Mais il y a un entraînement là-dessus. On devrait pouvoir plus ou moins se prémunir. L'avantage du désavantage des têtes multiples, c'est que la charge explosive de chacune est beaucoup plus faible que si c'était une seule tête avec la charge pleine.
Mais quelle est la priorité, étant donné que, Raphaël, vous avez été dans l'armée, officier de renseignement dans l'armée, sur le terrain, parce que là, ça se poursuit, le point presse. Non, il vient de se terminer le point presse du Pentagone. Quelle sera la priorité au cours des prochaines heures sur le terrain, au plan militaire, que ce soit pour Tsahal ou pour les États-Unis? Quelle sera la priorité d'ici, mettons, mercredi?
Alors, la priorité est double, et c'est pour ça que le travail est partagé entre Israéliens et Américains. Du côté américain, c'est de continuer à détruire les infrastructures militaires, surtout les usines et les hangars de missiles balistiques et les rampes de lancement. On n'a pas encore touché au nucléaire, on n'en a pas besoin, parce que c'est pas une menace présente imminente. Donc, surtout détruire, neutraliser la menace balistique et aussi les drones, et s'assurer une suprématie aérienne qui est en train d'ailleurs d'arriver. En tous les cas, l'ouest de l'Iran est déjà sous la suprématie aérienne israélo-américaine. Les Iraniens ne peuvent rien faire dans les cieux de l'ouest de l'Iran aujourd'hui. On peut circuler librement. Du côté israélien, le boulot, c'est de continuer les éliminations ciblées des hauts dirigeants et surtout de détruire tout ce qui est la répression du régime, les postes de police, les tribunaux, les endroits où on torture, où on interroge les gens, c'est-à-dire d'affaiblir le système policier répressif du régime, parce que la prochaine étape, car sans elle on ne peut pas réussir, c'est de passer le relais au soulèvement populaire iranien, qui lui doit renverser le régime et donner le coup de grâce au régime, après ce qu'on ait préparé évidemment le terrain pour eux.
Est-ce qu'on peut se reparler peut-être même cette semaine, Raphaël?
Ah bah, avec les Canadiens, toujours.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Extraordinaire. Merci. Raphaël Jérusalemi, mesdames, messieurs, on va à la pause à 8h51.
Je peux te résumer deux, trois trucs.
Oui,
là,
vas-y, mon Danny boy.
Ce qui a été dit ce matin dans le point de presse. Tout d'abord, on a le point de l'administration Trump, c'est pas on a débuté une nouvelle guerre, c'est la même qui dure depuis 47 ans, depuis 79, qu'on essaie de terminer. On a confirmé un quatrième soldat américain qui est décédé. Oui. On a aussi confirmé les trois F-18 qui ont été abattus. Au-dessus du Koweït. Et on a précisé que c'était des tirs amis. Donc, vraiment des dommages collatéraux.
Mais vous voyez les pilotes en parachute. Là.
Oui, c'est ça. Tout le monde a été rapatrié, oui. Exactement. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. On dit que Epic Fury, c'est vraiment de façon chirurgicale ce qu'on veut. C'est depuis le Pentagone détruire les cibles iraniennes, les cibles de guerre. Et puis, ce qui fait beaucoup, beaucoup jaser ce matin, plus que l'Iran, c'est qu'on est vraiment dans un échange de type Nadal-Federer entre Jérusalem et Beyrouth ce matin, là. Eux autres lancent des missiles, il y a une réponse, on relance des missiles, il y a une réponse de Beyrouth, il y a une réponse de Jérusalem. Donc ce matin, c'est vraiment avec le Liban. Donc finalement, c'est une guerre qui est en train de s'installer partout dans le Golfe.
Wow. Restez là, on revient dans pas long.
Live.
Radio X.